Arnaud Boutéon, bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Bonjour à tous.
Alors, la dernière fois, vous nous avez parlé de l'ascèse et du combat spirituel. Quel est notre thème d'aujourd'hui?
Alors, je reviens de Bretagne, là, et j'ai eu l'occasion de courir entre différentes églises, différentes chapelles, et je voudrais vous parler des lieux de culte et de la ferveur populaire. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange sur cette question qui me tient tant à cœur, qui est celle du sport et de la foi. Et effectivement, ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de courir. J'aime beaucoup courir. Vous savez qu'on retrouve une joie de l'enfance dans l'effort, dans l'ascèse. Et parmi les lieux qui balisent un peu mes courses quand je suis en Bretagne, il y a le fait d'aller de clocher en clocher. Et la dernière fois que j'ai couru, j'étais accompagné de monsieur le recteur, comme on dit. C'est monsieur le curé qui aujourd'hui a un territoire paroissial considérable. Et il me disait, entre deux essoufflements, entre deux courses, tu vois, Arnaud, dans 15-20 ans, ces églises, il n'y aura plus de fidèles, il n'y aura plus rien. Et là où je suis en Bretagne, c'est dans un petit pays qu'on appelait la terre des prêtres, dans un diocèse qui était le diocèse où il y avait le plus de prêtres au monde au début du XXe siècle. 900 prêtres diocésains, celui de Quimper-Brest, et puis 900 prêtres qui étaient missionnaires. Et donc cette interpellation qui consiste à se dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi nos églises sont brutalement devenues désertes? Pourquoi sont-elles des murs sans vie? C'est ce risque qui nous étreint. Et puis, comment est-ce que cette foi a pu disparaître? Et en regardant, vous savez, je fais régulièrement le parallèle entre le sport et la foi, et en regardant la ferveur qu'on retrouve dans les stades de foot, là il y a eu tout un débat autour de l'Olympique de Marseille, avec des supporters qui ont quasiment obtenu le départ du président de l'Olympique de Marseille, et on voit qu'il y a une ferveur populaire autour de leurs couleurs, autour de leur stade, et qui est vraiment chevillée au corps. Donc les stades, alors à grand renfort de marketing, se remplissent, même si là ils sont vides avec la crise du corona, mais ils se remplissent de plus en plus avec une expérience d'émotion et de ferveur populaire et quelque chose de très puissant. Et puis nos églises ont tendance à se vider, elles se vident, et parfois il y a des trésors patrimoniaux qui sont absolument exceptionnels. Mais lors des assemblées dominicales, nous voyons des tempes grises et nous sentons un essoufflement dans les cœurs. Alors évidemment, ça nous blesse, ça nous perturbe un peu, mais je crois qu'en tant que chrétien, il faut voir au-delà. Hein, il faut voir au-delà et en profiter pour s'interroger aussi, sur les signes des temps, sur peut-être des erreurs qui sont passées, mais c'est aussi l'occasion de nous interroger sur ce qu'est la foi réellement. Est-ce que la foi, c'était une habitude sociale qui faisait qu'on était juste conditionné en quelque sorte pour obéir à papa, maman, au professeur, à monsieur le recteur, quand il nous disait d'être à la messe, quand il nous disait qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Alors on a besoin et c'est même pour notre sécurité, c'est important d'avoir ces règles, ces conduites, mais il y a un moment où la foi est un sceau quand même, un sceau personnel, qui fait qu'une personne, de façon très autonome, va aller retrouver son Seigneur dans une église, rejoindre une communauté pour cheminer dans cette voie du salut à travers la vie sacramentelle. D'où cette interrogation, comment se transmet la foi et la ferveur? Pourquoi donc ces églises semblent vides alors que les stades sont pleins? Et comment retrouver cette ferveur? Je crois que vraiment, comme je l'évoquais, c'est que la foi est un exercice de liberté qui rejoint toute notre personne. Nous sommes un corps, et nous le voyons quand nous nous déplaçons, nous sommes un esprit avec notre intelligence, et puis surtout nous sommes une âme qui nous lie au ciel et qui nous lie à la transcendance. Je repense souvent en discutant autour de moi avec les hommes chevaliers de Colomb, avec mes enfants, avec des personnes que je rencontre, à la belle définition de la foi, définition qui figure dans le catéchisme de l'Église catholique, la définition donnée par saint Thomas. C'est vrai que la foi n'est pas qu'émotionnelle, et la ferveur populaire, identitaire que l'on retrouve dans le sport, parfois a cette dimension ultra-émotionnelle. Je crois que dans les temps que nous allons traverser, il ne faut surtout pas négliger la dimension rationnelle aussi de notre foi. Et croire, disait saint Thomas, est un acte de l'intelligence qui adhère à la vérité divine. C'est ce consentement à cette loi surnaturelle, à cette loi divine qui nous dépasse, qui nous nourrit, sous le commandement de la volonté, mue par Dieu au moyen de la grâce. Tout vient de Dieu, tout retourne à lui. Mais on voit que dans cet acte de la foi, eh bien notre intelligence est en mouvement, notre volonté commande, et puis il y a ce primat de la grâce, cette puissance de la grâce qui nous donne ce que les sportifs, vous savez, appellent souvent le supplément d'âme. Nous, elle nous vient du Seigneur, c'est le moyen de la grâce, et les sacrements nous donnent cet état de grâce qui vient fortifier notre volonté et qui vient travailler notre intelligence. La foi, elle se travaille comme un sportif ou comme va travailler ses entraînements, comme un musicien va travailler ses gammes. Et souvent, la foi, pour nous chrétiens, peut être vécu comme une donnée patrimoniale que l'on acquiert. On a ces différentes étapes qu'on stocke un peu dans notre histoire, et puis ensuite on ne va plus le travailler. On ne va plus, on va le stocker, on va estimer que c'est un élément de notre identité, un peu de notre patrimoine, mais sans voir l'importance de régulièrement faire ce travail de maintenance, d'entretien, de revitalisation de cet élément constitutif de notre identité. En analysant un peu ce qui s'est passé à Marseille, je pensais à deux choses, à l'opposition entre ce qu'on appelle un fidèle, et c'est intéressant parce que le nom, l'adjectif de fidèle est devenu un nom commun finalement, infidèle, et puis un supporter. Dans le supporter, en quelque sorte, est au stade ce que le fidèle est à l'église. Et on retrouve cette double dimension dans le mot supporter, qui est de supporter l'insupportable. Quand on supporte un enfant, c'est qu'on supporte des désagréments, on supporte des difficultés, on supporte des vides, on supporte des absences, on supporte une forme de sécheresse. Et puis de supporter aussi, qui consiste à soutenir. Et le vrai soutien, il se manifeste précisément dans ces zones, un peu dans ces moments de difficulté, d'adversité. Et comme on l'avait évoqué plusieurs fois ensemble, l'adversité est une vraie opportunité pour mesurer de quel bois nous nous chauffons. Donc je crois que les fidèles qui étaient un peu biberonnés à une foi finalement assez confortable dans des écrins communautaires, sociologiques, eh bien le temps est venu d'éprouver différemment cette foi, mobiliser cette intelligence, notre volonté, donc muscler notre volonté, et puis en appeler comme des pénitents à la grâce du Seigneur. Parce que les temps sont durs, et que en retrouvant peut-être dans notre cœur de chrétien cette dimension de supporter, parce que nous avons pu souffrir aussi par l'Église, dans l'Église, la plupart des grands saints ont dit que les saints ont souffert dans l'Église, par l'Église et pour l'Église. Les périodes que nous traversons et la crise du Covid est un élément où on a parfois été un peu déçu par nos prêtres, parfois été un peu déçu par notre institution. Et bien malgré cela, on va de l'avant et on supporte. Je crois que la foi est toujours là dans les échecs et les tourments. Elle est toujours cette affaire de flamme intérieure et de confiance. Même si on est parfois blessé, donc il faut toujours trouver cette juste distance, mais de confiance vis-à-vis des représentants institutionnels de cette foi, qui sont des serviteurs de la transmission de la foi, des médiateurs, des passeurs, comme nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, professeurs, nous sommes aussi des passeurs pour essayer, avec nos insuffisances, de donner le meilleur de nous-mêmes et de le meilleur de ce que nous pensons être notre patrimoine. mais au sens de patrie, donc identité, et puis de ce qui nous vient de nos pères. Et je crois qu'il faut retrouver en tant que fidèle, comme les supporters peuvent le retrouver quand ils sont déçus par un entraîneur, par un président ou par tel joueur, une forme de magnanimité ou de bienveillance en se disant que malgré tout, l'histoire est en marche. Voilà. Moi, je voudrais essayer de partager avec vous finalement sept petits points qui sont intéressants, qui sont des points de parallèle finalement entre ce que vivent les fidèles et ce que vivent les supporters. Le premier point, et ça c'est mon expérience de sportif, et peut-être, chers auditeurs, que vous-même, ça fera écho dans votre histoire, le premier point, c'est un lieu d'enracinement. C'est une église, c'est un stade, c'est ce que avant nous on disait un temple, et beaucoup de présidents de clubs qui ont travaillé sur le rayonnement local et international de leur marque, de leur club, de leur histoire, ont toujours insisté sur l'importance de ce lieu, de ce stade qui était le lieu dans lequel nous vivons finalement l'instant sportif, nous y communions. On le vit par procuration. Nous, on est dans les gradins, et finalement les athlètes s'exposent devant nous. Et c'est un lieu de ressourcement. C'est un puits dans lequel on va retrouver de la force. Alors le parallèle est toujours un peu osé parce que nous, notre force, elle est surnaturelle, alors que chez le supporter de club, on peut être dans ce que Pascal appelait le divertissement, du pain et des jeux. Mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, alors que notre foi parfois peut être asséchée, je souhaite que ça ne soit pas le cas, mais parfois elle peut l'être, se dire par un exercice de décentrement, regarder une forme de ferveur, de fidélité, et est-ce que nous, chrétiens, cette ferveur, alors que notre produit, il est 3 fois plus puissant, il est 3 fois plus. Il va chercher beaucoup plus loin, il va monter beaucoup plus haut. Ces personnes sont joyeuses de se retrouver au stade, se mobilisent malgré des hauts et des bas, et ils sont davantage fidèles que nous, finalement. Donc ça doit aussi nous interpeller. Donc c'est l'importance de ce lieu, de ce lieu de rassemblement, de ce lieu qui va venir encapsuler des souvenirs. Souvent, récemment, j'étais aux États-Unis avant la crise du Covid, et les Américains ont vraiment ce sentiment d'appartenance autour de leur église. Dans un esprit pionnier qui les caractérise souvent, ils participaient vraiment à la construction de leur église, et ils demandaient à chacun de financer une plaque, de financer un mur, un banc, etc. Et on avait au fond de l'église, ce mur où il y avait le nom de tous les fidèles qui étaient en quelque sorte des copropriétaires de cette église. Récemment, dans un petit village de Bretagne, à Guingamp, j'ai vu la même chose. Il y avait un projet de construction et chacun avait mis sa petite plaque. Alors, un peu comme des ex-voto, où on rend grâce pour ce lieu de communion, mais je le vois aussi comme une plaque d'appartenance. Et de se dire que cette plaque d'appartenance nous donne peut-être des droits, c'est un droit d'être baptisé, de savoir que dans n'importe quelle église du monde, nous serons chez nous, mais ça nous donne aussi des devoirs de servir l'église dans les hauts, dans les bas, mais de se donner nous-mêmes dans cet acte d'obéissance qui est un acte fondamentalement de liberté. Et je repensais à cette belle chanson de Sainte Thérèse de Lisieux qui a bercé un peu mon enfance. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et je crois que c'est important de se dire que dans l'écrin que sont nos églises, que sont nos lieux de travail, nous devons un peu rayonner de cet amour, faire une petite différence, un témoignage qui est un signe de martyr. Donc c'était un peu le premier point sur cet enracinement du lieu. Le deuxième point, c'est qu'on ne vient jamais dans un stade par hasard. C'est toujours un grand frère qui nous initie, qui nous tire par la main. Ça peut être un cousin, ça peut être un père, ça peut être un grand-père. Et je crois que c'est important de retrouver toute cette logique d'initiation. Alors, dans nos églises, on la trouve à travers ce qu'on appelait les sacrements d'initiation, mais aussi dans un âge un peu plus avancé par des figures, des figures de spiritualité qui vont nous donner une sorte de réassort affectif pour préparer ce cœur à cœur avec le Seigneur. J'ai un ami prêtre qui me disait, moi, mon chef de patrouille a décidé de devenir prêtre et son fiat, son engagement, pour moi, était décisif en me disant, mais c'est un homme épatant, il est équilibré, il aime la vie, etc. Si lui fait ce saut, pourquoi pas moi? Et ce garçon était quelqu'un qui m'avait initié, qui avait montré la route. Et donc, tout simplement, de façon mimétique et avec confiance, j'ai suivi ses pas. Saint Jean-Paul II disait qu'il avait commencé son séminaire à la maison en voyant son père à genoux en prière. Et ça avait été la plus belle des initiations. Il s'est dit, si l'homme qui m'a donné la vie se met à genoux devant son créateur, créateur de toute vie, eh bien, je comprends tout, je comprends tout. Et un starets orthodoxe disait à mon épouse, elle-même orthodoxe, il y a trois choses à faire, tout simplement pour, en tant que parent, modeste médiateur, contribuer à la transmission de la foi. Prier ensemble, avec amour et avec attachement, devant nos enfants. Prier pour eux, devant eux, et éventuellement avec eux. Mais il faut que nos enfants nous voient prier. Et il faut que nos enfants, enfin troisièmement, prier pour eux, devant eux. Il faut que nos enfants sachent que nous prions pour eux, sachent que nous faisons des petits sacrifices pour eux. D'où vraiment cette figure d'initiation et cette question qu'on peut se poser, et est-ce que moi, je suis ce passeur? Est-ce que je suis cette personne à travers les engagements qui m'ont été demandés? Parce que je peux être parrain aussi, je peux être chef en responsabilité. Est-ce que j'ai contribué à ouvrir cette voie vers le chemin de sainteté aux personnes qui m'étaient confiées? Voilà. Le deuxième point, c'est cette initiation qui permet de découvrir un monde nouveau. Le troisième point, le lieu de culte, comme l'Église, rejoint une histoire personnelle avec une sédimentation de souvenirs. Et pour nous, dans nos églises, eh bien, c'est l'importance évidemment des sacrements, de grandes liturgies, peut-être de visites pastorales importantes, de nuits d'adoration où l'Église, nous la retrouvons à 2 h du matin, dans l'obscurité, le froid. Et je crois que c'est important, quand nous rentrons dans une Église, de rendre grâce pour tous les souvenirs qui y sont attachés. Dans les stades, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le stade a vécu des moments incroyables dont la portée dépasse la portée des gens qui ont assisté à cette victoire. Une victoire entre Liverpool et Manchester United sera comptée dans les 20 ans à venir. Et est-ce que nous, quand nous assistons à certaines homilies, est-ce que nous, avec l'attention que nous pouvons porter à la messe quand nous y allons, nous mesurons cette dimension si historique. Je évoquerai tout à l'heure là le sacrifice de la messe, mais cette dimension historique qui est ce rassemblement communautaire dans les murs de cette église. Et je crois que c'est important. Je lisais récemment un livre qui s'appelle La foi de mes pères sur l'histoire de la Bretagne, et il parlait de toutes ces processions, de toutes ces décorations d'église, et qui contribuent profondément à l'attachement qu'on a non seulement à la pierre, c'est quelque chose de très corporel et normal, mais aussi à cette église du ciel et de la terre. La quatrième chose que nous avons un peu en commun dans notre vie chrétienne avec le monde du sport, c'est un calendrier liturgique avec des rendez-vous qui sont balisés dans le temps et avec chaque fois une nouvelle rencontre. Là, nous sommes dans le temps du carême et nous voyons la cohérence de la progression que nous recevons à travers les récits de la parole du Seigneur. Et comme un stade va rencontrer régulièrement différentes compétitions, il va y avoir la Coupe de France, alors il y avait la Coupe de la Ligue, il peut y avoir la Coupe d'Europe pour les grandes équipes. Alors ça serait finalement un peu l'équivalent des cathédrales pour nous, des grands rassemblements diocésains. Eh bien, nous nous retrouvons selon un calendrier liturgique qui vient rythmer le temps de l'année. Nous avons un rythme physique, un rythme cardiaque, et eh bien nous avons un rythme liturgique qui vient nous voir grandir. Je me souviens d'un ami qui me disait, on marchait comme ça dans la rue, et il me disait la chose suivante en regardant la nature, tiens, les jonquilles sont sorties, d'habitude, les jonquilles sortent le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick. Et c'était très beau de se dire que notre histoire est inscrite l'histoire naturelle avec ce rythme, cette respiration de la terre, finalement rejoignait le calendrier liturgique. Et la Saint-Patrick était en général au 17 mars, le jour où on voyait apparaître les premières jonquilles. Et voilà cette petite anecdote que je vous partage pour vous évoquer cette importance du calendrier liturgique. Je vais faire une petite pause musicale, je vous l'avais promis tout à l'heure, pour se mettre vraiment dans les pas et dans le de la grande Sainte Thérèse de Lisieux, la patronne des missions, qui, sans sortir des murs de son Carmel, a été une immense sainte missionnaire et donc éminemment sportive, et qui évoque ce chant d'amour en disant: dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et finalement, dans le geste sportif, dans le cœur du stade, que fait le chrétien? Ben, il essaye, le sportif, il essaye, en offrant son histoire à travers ce geste juste, il essaie lui aussi d'être l'amour. Mais la réalité chrétienne est évidemment éminemment plus puissante que cette réalité terrestre sportive, même si elle nous ouvre la porte. Voilà, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. La grande Sainte Thérèse est toujours vraiment, vraiment inspirante. Dans le tourbillon de nos vies, elle a toujours une parole qui est quand même incroyable, même d'un point de vue littéraire. Je disais ça à mes enfants. Elle est décédée à 25 ans. Et quelle richesse dans le langage et dans la définition de la foi, quand on parlait vraiment de l'acte de l'intelligence qui adhère à la volonté divine. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire de telles merveilles de profondeur dans les cœurs et dans une intelligence humaine. Voilà, je vais reprendre un peu le fil de mon propos sur la ferveur populaire, sur la ferveur religieuse aussi, avec ce parallèle entre le stade et l'église. J'avais évoqué le lieu, le stade, l'église, le lieu de ressourcement, ce puits. J'avais évoqué l'initiation, le besoin d'un médiateur, d'une personne un peu d'autorité qui va nous conduire dans ce lieu. Et il y aura un lien particulier qui va durer avec cette personne. L'importance de l'histoire personnelle, les murs de nos églises vont transpirer finalement de magnifiques souvenirs autour de tous les événements qui auront marqué l'église. Le calendrier liturgique qui rythme notre vie de chrétien. Voilà, c'était le quatrième point. Et puis le cinquième point, ben, c'est évidemment ce rendez-vous personnel où chaque personne va se rendre comme un rendez-vous d'amour dans ce lieu. Alors pour un supporter qui aura sa carte un peu d'abonné, eh bien, il y aura le fait de retrouver sa communauté. Je vais l'évoquer tout à l'heure, mais le fait de vivre ce spectacle qui est celui de la confrontation de son équipe préférée sur le terrain face à une autre équipe, avec l'amour du jeu et puis l'amour du maillot, évidemment. Mais pour nous, les chrétiens, ce rendez-vous personnel, c'est vraiment ce rendez-vous pour aller puiser la grâce du sacrement, pour aller communier physiquement avec notre corps, de toute notre personne. C'est pour ça que cette crise du Covid est déstabilisante, parce que nos communautés sont clairsemées et nous avons besoin de communier avec notre personne comme à corps, âme, esprit, mais d'aller toucher le mur de nos églises, de nous retrouver dans ces lieux de grâce, de bénédiction, pour recevoir Jésus dans sa parole et sa sainte Eucharistie. Et nous allons y puiser la grâce du sacrement. Finalement, toute la semaine est un moment de préparation et également un moment d'envoi vers ce rendez-vous dominical qui est le lieu de l'union physique avec Jésus dans l'Eucharistie. J'aime beaucoup, j'ai écrit un petit livre, hein, qui s'appelle Comme un athlète de Dieu, et puis je faisais un peu un parallèle entre le rythme de la messe et une compétition sportive, avec la première mi-temps qui était la parole de Dieu, la deuxième mi-temps qui était le canon eucharistique, et puis cette fin du match finalement qui est un envoi, et qui est un envoi vers un autre match qui est la compétition de nos vies. Et la messe, c'est un lieu de ressourcement, mais c'est aussi comme lieu de ressourcement, il faut imaginer une batterie qui se charge. C'est aussi le lieu qui nous permet de reprendre ses forces pour être missionnaire et pour vivre une autre liturgie qui est la liturgie du témoignage dans le monde. Et ça, c'est une autre compétition qui s'ouvre.
Arnaud?
Voilà. Mais oui, bien
Oui,
sûr.
nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit d'Agnès. Agnès, c'est à vous.
Bonjour Agnès.
Oui, bonjour. Voilà, je voulais intervenir par votre émission parce que justement, oui, je suis entièrement d'accord avec vous qu'on peut accorder la foi et le sport. Moi qui étais une randonneuse montagne, enfin, pas une sportive, mais bon, à mon niveau, je le faisais. À l'époque, je ne le faisais qu'un dimanche sur deux. J'allais à la messe parce qu'un dimanche sur deux, il fallait marcher. Et puis, un bon jour, évidemment, Marie est venue me chercher par la main, par le cœur. Et j'ai compris qu'il faut vraiment, vraiment, maintenant à la retraite surtout, il faut vraiment être avec le Seigneur et avec Marie. Et puis, le sport, en tant que retraité surtout, il faut que les retraités comprennent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et en tant que retraité, on peut toujours faire du sport en semaine. Voilà. Si mon message pourrait passer, je serais enchantée.
Merci
Voilà, je vous
Agnès.
remercie.
Votre message est
Oui.
parfaitement passé. C'est un message à destination de tous les retraités pour que les retraités comprennent que pendant toute la semaine, ils peuvent faire du sport et que le
Voilà.
dimanche, c'est le lieu du Seigneur et que les retraités peuvent retrouver toute la communauté paroissiale pour rendre grâce, dans
Exactement.
l'Église. Merci
Voilà.
beaucoup, Agnès.
Merci
Merci
à
Agnès.
vous. Allez, au revoir et
Au
merci
revoir.
encore. Au revoir, bonne journée à Radio Maria et à toute l'équipe.
Merci Agnès,
Merci.
à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Je reprends mon petit rythme après cette intervention merveilleuse d'Agnès pour évoquer ben, évidemment la grâce du sacrement le dimanche ou en semaine avec cette communion eucharistique. Et puis le sixième petit point, ben, c'est évidemment cette volonté de retrouver. Que ce soit comme le supporter du club, comme le fidèle chrétien, bah, de retrouver une communauté, de vivre l'esprit d'équipe. Et parfois, nos communautés, malheureusement, sont un peu trop atomisées. J'ai un ami qui est musulman converti qui m'avait dit la chose suivante. Quand j'étais à la mosquée, eh bien, nous prions, nous étions serrés les uns contre les autres et nous étions tibia contre tibia, me disait-il. Ensuite, j'ai rencontré Jésus, alors d'abord par les pentecôtistes, et là nous étions épaule contre épaule, debout. Déjà, on se relève parce que c'est le Christ ressuscité. Et puis chez les catholiques, je suis arrivé, j'ai vu des gens assis avec, bien avant la crise du Covid, eh bien, des espèces de zones comme ça, de zones franches avec des sièges vides autour des fidèles, mais nous ne faisions pas physiquement un corps. Et je crois que c'est très important de se dire que la communauté paroissiale doit et c'est pour ça que cette crise est une souffrance parce que cette distanciation sociale est une souffrance. Nous avons besoin de nous sentir proches les uns des autres, proches par le cœur, mais aussi proches par le corps. Et je crois que cette dimension communautaire est fondamentale et nos frères évangéliques ont retrouvé cette dimension joyeuse communautaire. Quand les supporters ont un seul maillot, il y a cette dimension vraiment fraternelle et puis toujours cette ouverture en disant voilà ma joie, je veux te la faire partager. Le cercle n'est pas un cercle clos, mais un cercle qui est toujours ouvert. Mais il y a en tout cas j'allais dire ce chant commun, chanté d'un seul cœur, d'une seule âme. Et bien il est partagé par cette grande chorale que sont les fidèles. Les chants des supporters, c'est quelque chose de très fort. Vous savez, on dit souvent que quand une équipe joue à domicile, les joueurs sécrètent 40% de testostérone en plus. Alors, ça va vous faire rire, mais ça veut dire quelque part que ils sentent la pression, ils sentent l'engouement et la ferveur de la foule. Et donc, en ayant plus de testostérone, parce que je parle des athlètes masculins, ça veut dire qu'ils sont encore plus confirmés dans leur identité naturelle d'homme. Et peut-être que quand nous chantons avec ferveur, quand la foule est compacte, et bien nous voyons que les prêtres vivent leur ministère avec une ferveur, une profondeur et un soutien un peu renouvelé. Et puis le dernier point que je voudrais évoquer, après le lieu, l'initiation, l'histoire personnelle, le calendrier liturgique, ce rendez-vous personnel, l'esprit d'équipe, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui va naître gratuitement dans notre cœur. C'est une forme, une amie religieuse parlait du confirmatur divin, c'est la fierté, c'est la joie. C'est qu'il y a un moment où, dans notre vie, un peu d'écartèlement, de combat, quand on sait que nous sommes sur notre axe, nous sommes avec le Seigneur, il y a de façon très naturelle une joie qui va venir jaillir au fin fond de notre cœur, qui va nous donner de la force, qui va nous donner de la confiance, qui va nous donner de l'espérance. Et le Seigneur, à travers son Esprit Saint, dans ces moments-là, va faire monter en nous cette joie. Et souvent, quand on voit la joie des supporters, soit on peut avoir un regard un peu cynique, en disant, voilà, c'est idolâtre, ça ne sert à rien, soit on peut se dire que c'est peut-être l'avant-goût de quelque chose qui est encore plus puissant qu'est la joie de l'Évangile. C'est que ces réalisations terrestres, que sont le sport, qui sont des temporalités qui sont parfaitement honorables, elles viennent nous montrer que sur Terre, et pour préparer cette grande fête céleste, se prépare quelque chose qui est qu'un avant-goût de cette grande communion de contemplation de la béatitude du Seigneur là-haut, où quand nous serons tous un seul cœur, une seule âme, un cœur puissant pour rendre grâce, pour redire cette hosanna, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et retrouver le Seigneur dans la gloire, dans cette vie éternelle qui a commencé. Notre vie éternelle a déjà commencé, la compétition a déjà commencé, le coup d'envoi a été donné avec notre baptême. Intégrons-le. Je voudrais terminer par une très belle prière sur la ferveur, qui est une prière du cardinal Newman. Et c'est une prière qui parle aux sportifs, et qui parle aux fidèles, qui parle aux supporters et à tous ces fidèles. Je vais terminer en lisant avec vous et en méditant avec vous cette belle prière. Seigneur, donne-moi la ferveur, car en demandant la ferveur, je vous demande tout. Je vous demande la force effective, la constance et la persévérance. Je demande la mort de toute vue humaine et la simplicité d'intention de vous plaire. Je demande la foi, l'espérance et la charité. En demandant la ferveur, je demande d'être délivré de la crainte des hommes et du désir de leur louange. Je demande le don de la prière parce qu'il est si agréable. Je demande cette loyale perception du devoir qui résulte d'une ardente affection. Je demande tout à la fois la sainteté, la paix et la joie. Seigneur, en demandant la ferveur, je ne demande rien d'autre que vous. Ô mon Dieu, qui vous êtes donné entièrement à nous. Vous êtes le feu vivant qui brûlait d'amour pour les hommes. Entrez en moi et allumez en moi le feu de votre amour. Amen. Bonne semaine à tous et rendez-vous, chers amis du sport, chers amis de la foi, rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
Alors, Arnaud, nous avons reçu deux messages. Tout d'abord, une autre auditrice prénommée Agnès qui écrit ceci. Bonjour Radio Maria, bonjour Arnaud. Merci d'aborder la question de la ferveur dans l'Église. À Paris, les dimanches, les églises sont remplies, sauf que je ne ressens pas cette ferveur populaire et cet amour qui nous unit ensemble dans ce corps qui est le Christ, dont nous sommes les membres. Le rendez-vous personnel d'amour est bien présent, néanmoins je reste frustrée quand la communion les uns les autres semble inexistant. J'aime l'Église, mais je reste frustrée de ne pas partager cet amour débordant avec les fidèles à la fin de la messe. Et c'est signé Agnès.
Oui, merci Agnès. C'est intéressant. Un petit conseil que j'ai appliqué moi-même. Un jour, je devais aller à un mariage, qui est une noce, donc... aussi, et je ne voulais pas y aller. Et puis un ami m'a dit la chose suivante, il m'a dit, je n'avais pas envie de parler avec les gens, je n'étais pas bien, etc. Et il m'a dit, fais l'effort, décentre-toi, oublie-toi et va vers les gens. Va vers les gens, pose-leur des questions, fais-les exister. Et parfois, effectivement, je réalise que dans nos communautés paroissiales, nous sommes tous un peu verrouillés et personne n'ose faire ce premier pas. Et qu'il suffit qu'une personne fasse ce premier pas pour que tout s'ouvre. Donc, je comprends parfaitement ce que vous vivez, Agnès, et moi aussi, je l'ai souvent vécu. Il y a quelque chose de. Parfois, on a l'impression de voir des fidèles un peu zombies qui viennent et qui repartent. Parfois, en plus, aujourd'hui, ils sont masqués, mais un peu tristes. Et essayer de casser cela, peut-être sur le parvis, en allant voir des personnes qui peuvent être seules, et puis posez-leur des questions, intéressez-vous à elles, et vous verrez le regard s'illuminera. Donc c'est ce petit conseil de sportif et que je peux vous partager, et puis demander l'aide de l'Esprit-Saint pour faire ce premier geste, parce que ce geste est un peu difficile, mais en tout cas de ne pas attendre des autres, mais de s'exposer, c'est un geste éminemment sportif, hein, de donner le coup d'envoi, en quelque sorte, de ce geste d'attention et de charité auprès des paroissiens.
Alors c'est vrai que là, je suis en train de penser à une chose. Dans certains sports comme le rugby, on voit les supporters des deux équipes se retrouver, faire connaissance et finalement que leur équipe est perdue ou gagnée, finalement c'est célébrer le match ensemble.
Exactement. On a partagé des belles émotions, on a partagé du combat, et puis ce combat, il est relativisé, et ensuite la communion humaine prime.
Et nous terminons avec un message de Monique. Bonjour, j'aimerais offrir votre livre à mon petit-fils, rugbyman dans l'âme. Quel est le titre? Merci.
Ah, alors le livre s'appelle Comme un athlète de Dieu. C'est un. Comme un athlète de Dieu aux éditions Salvator. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais je pense que vous pouvez encore le retrouver, peut-être à la procure ou sur les sites internet ou le faire commander dans une librairie chrétienne. Donc, comme un athlète de Dieu, manifeste sportif et chrétien. Et en tout cas, priez pour moi parce que dans la perspective des Jeux Olympiques 2024, je pense que je vais réécrire un petit livre sur ce sujet qui me tient tant à cœur. Donc, je sais que vos prières m'aideront à reprendre la plume sur ce sujet, parce que, comme disait Saint Jean-Paul II, c'est un terrain missionnaire important, et le développement du sport est un signe des temps qu'il faut lire et qu'il faut surtout voilà qu'il faut occuper pour voir dans cette manifestation humaine aussi un début de soif. De l'amour du Seigneur. Donc, ayons ce regard bienveillant sur cette réalité sportive et en pensant que c'est une vraie opportunité missionnaire pour nous tous.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Potéon et puis à bientôt pour une nouvelle
Très
émission sur le
bientôt.
sport et la foi.
Belle journée à vous tous. Merci à tous les auditeurs de Radio-Canada. Au revoir.
Au revoir.